Rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bref, c'est vendredi soir, vous rentrez de votre journée de travail. Vous êtes affalé sur votre canapé, vous allumez votre télé, vous zappez, zappez, zappez. Vous cherchez une bonne série à regarder. Arte, Netflix, Canal+, Disney+, Prime, Paramount. Bref, profusion de séries, du choix, plein de choix, que de choix. Bref, trop de choix tue le choix. Laquelle est bien ? Laquelle va me plaire ce soir ? Mini-série, série en plusieurs saisons, comédie, polar, science-fiction. Bref, vous vous dites, j'aurais dû écouter Rendez-vous série des bibliothèques de Compiègne sur Graphite. Bref, il n'est jamais trop tard pour se rattraper et écouter les précédentes émissions en podcast. Bref, vous allez écouter la nouvelle émission de ce soir. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous culture, rendez-vous série, où nous vous présentons les séries qui nous ont marquées, scotchées, captivées, intriguées, enthousiasmées. Bref, au programme, les séries Anaon et Koiza Mais Linda sont les choix d'Emmy. The Penguin est la sélection d'Aurore, qui nous fera également un petit retour sur la série Cat's Eye dont nous avons parlé la dernière fois. OVNI sera recommandé par Nathalie. La Servante Écarlate et The Backrooms sont les choix de Julie qui rejoint notre équipe de chroniqueurs. Bienvenue Julie. L'excellente Utopia est le conseil de notre nouveau chroniqueur aussi, Clément. Et enfin, les séries Extraordinary et Rogue Heroes sont les deux séries que je vais vous recommander pour ma part. Nous allons commencer avec la série Anaon, dont nous allons écouter un extrait de la bande originale qui va nous mettre dans l'ambiance de ce thriller fantastique.
Alors, Anaon, que je vais vous présenter, est un thriller fantastique récent, composé d'une saison de 6 épisodes de 52 minutes, récompensé pendant le festival Sériemania cette année. La série rend hommage au cinéma des années 80 en puisant dans les légendes bretonnes, et c'est ce qui m'a beaucoup intéressée et plu notamment, du fait que j'avais bien apprécié les sagas de l'été dans lesquelles on était plongé dans le folklore breton, comme les séries françaises Zodiac en 2004 ou encore Dolmen en 2005, et encore plus récemment la série Brocéliande avec Nolwenn Leroy ou de science-fiction Vortex en 2023. Le récit ici se situe à la frontière entre le thriller pour adultes et le conte fantastique adolescent. Anaon se traduit littéralement par « L'autre monde ou le royaume des âmes défuntes » en breton. Réalisée par David Ourège, la série met en scène parmi les rôles principaux Guillaume Labbé et Capucine Mallard. Il a été diffusé en exclusivité sur Prime Video en France le 4 avril dernier, mais il sera diffusé sur France Télévisions vraisemblablement en juillet prochain. J'ai une mention spéciale et non des moindres pour cette série parce qu'il y a la participation, et j'en suis véritablement heureuse, de celui qui incarne un monstre sacré à mon sens du doublage, enfin parmi tant d'autres, la voix la plus badass du doublage français qui s'appelle s'appelle Jérémy Covillo, pardon. Donc il a incarné donc la voix de Wolverine, Doctor Strange, Thomas Hardy, ou encore Jeffrey Dean Morgan. Et là, dans cette série, il joue principalement le rôle de Jean-Guy Le Guillou. Mais il y a aussi la participation spéciale, je trouve, de Fabien Houssaï, qui joue le rôle de, du Bougoulnos. Alors j'espère que je le prononce bien en breton. bien évidemment aussi une mention spéciale pour la bande originale de la série, qui est composée par Audrey Ismaël, dont un des titres que vous avez pu entendre tout à l'heure, dont un tiré donc justement l'extrait que vous avez entendu. Alors ce que j'ai apprécié dans cette série, c'est qu'elle explore principalement le thème de la reconstruction. Puisque, en fait, frappé par le deuil après la perte de sa femme, Max, qui est gendarme en Bretagne, est chargé d'une enquête délicate sur la disparition d'une adolescente. Alors, parallèlement, sa fille Wendy et ses amis, confrontés à des événements étranges, décident de mener leurs propres investigations. Max traque un agresseur en série et Wendy découvre bizarrement des phénomènes surnaturels liés au folklore local, dissimulant à son père des pouvoirs qu'elle développe. Leurs enquêtes respectives, bien que distinctes, les rapprochent malgré les secrets et le deuil tenace. Alors pour résoudre les mystères qui les entourent, Max et Wendy devront surmonter leurs difficultés et reformer les liens familiaux. Et la vérité se trouve peut-être dans leur capacité à s'épauler et affronter ensemble les forces obscures qui menacent leur équilibre. Alors celles-ci ont un lien avec un monstre du folklore breton que j'ai redécouvert qui s'appelle le Bougoulnos. Donc c'est une sorte de croque-mitaine qui est bien connue en Bretagne puisque c'est un territoire bien évidemment qui vit au rythme des légendes, des mythes et des pratiques magiques connues comme Brocéliande, Merlin, la fille Viviane et bien d'autres. Et en fait, au cœur des forêts bretonnes se cache donc ce personnage, ce monstre, dont le nom signifie « berger de la nuit ». Alors, il est solitaire, mystérieux, c'est un esprit de la forêt qui est chargé de protéger la nature, les animaux nocturnes, mais tout en effrayant quand même les humains par son apparence. Alors, il est souvent représenté comme une créature de grande taille, aux traits hideux, dissimulée sous un vaste chapeau et un long manteau blanc qui traîne au sol. Alors, ne pas confondre avec Gandalf, bien évidemment. Cependant, derrière cette apparence assez effrayante, se cache quand même un être solitaire et triste qui aspire à la compagnie. Donc, il est quand même, il n'est pas fondamentalement malveillant. Et il incarne la dualité de la nature, à la fois gardien et épouvantail. Et je tenais quand même à préciser que l'œuvre puise son inspiration dans diverses sources. Alors, je vous le donne en mille, bien évidemment Stranger Things, Guillermo del Toro. Donc, pour le design de la créature, d'ailleurs, il y a eu un gros travail malgré le budget qui était assez, assez restreint. Donc, ils ont quand même réussi à tirer, je trouve, leur épingle du jeu dans le fantastique français, donc aussi de ce côté-là. Et puis, vous avez aussi une référence aussi à X-Files. Donc, je vous laisserai juger aussi quand vous regarderez la série. Et donc, elle mélange habilement horreur, mythe, mystère, explorant les traumatismes et la façon dont les personnages se reconstruisent face à des événements hors du commun. Et donc je passe la parole à Aurore qui va vous présenter sa série.
Regarde-moi ça. Ce que ce malade a fait. Écoute ça, là. Carmine Falcon s'est fait descendre. Et moi, je suis là. C'est moi qui vais mener la danse. Les Falcons sont encore en train de panser leur plaie. Ils ont la tête ailleurs. Y a qu'à se pencher pour ramasser leur business.
Mon père est mort que depuis une semaine. Et tu veux me voler ce qui me revient?
Je suis la fille de Don Falcon. Mais il est mort. La famille me voit comme une petite chose fragile. Je suis pas fragile.
Toi et moi, gamin, ce qui nous fait envie, on doit le prendre. Parce que personne va nous le donner. Va falloir qu'on se batte.
Pingouin, tu bosses pour la famille. Tu vas faire ce qu'on te dit.
Je laisserai pas ces vieux croutons me mettre sur la touche une fois de plus. Je vais tout leur prendre maintenant. Et je vais tous les mettre à genoux.
Qu'est-ce que tu cherches à faire, Oz?
Je vais détruire leur petit empire de l'intérieur.
Tu sais, Oz, tout le monde te sous-estime, mais pas moi.
Eh bien, émis avec la série Le Pingouin. On est loin de Gandalf et des contes de Bretagne, mais on rejoint un autre univers mystique qui est celui des DC Comics, puisque Le Pingouin est un super vilain de cet univers-là, et plus précisément, c'est un méchant récurrent dans l'univers de Batman. Mais ce qui est intéressant dans cette série spin-off, c'est que les événements se passent entre deux films de Batman. L'intrigue de la série débute une semaine après les événements de The Batman de Matt Reeves, sorti en 2022, avec un chevalier noir aux allures de Robert Pattinson. Le film se clôture sur une inondation massive et destructrice de Gotham City, dont la série nous offre quelques réminiscences. À la suite de The Penguin, se dérouleront d'autres événements dans l'univers de Batman, avec la suite d'un film, donc The Batman Part 2, dont la sortie a été reculée à octobre 2027. Il va nous falloir attendre un petit peu. En attendant, je vous invite à découvrir ce curieux personnage qu'est Oswald Oz Cobb dans sa montée en puissance en mode super vilain de comics. Oh, bien sûr, il n'est pas devenu super vilain en un jour, peut-être même l'a-t-il toujours été au fond, mais être vil et briller, ce sont deux choses bien différentes. Cela signifie que notre pingouin doit jouer son rôle de super méchant et être reconnu par ses pairs pour ça, et c'est là tout l'enjeu de l'histoire. Oz, surnommé donc Le Pingouin, vous l'aurez compris je crois, travaille pour une célèbre famille de mafieux, les Falcone. Dans l'univers sombre et dévasté de Gotham City, Oz est l'homme de main de la famille et ancien chauffeur de la fille du patriarche, Sophia Falcone, que vous avez entendu dans les extraits. Récemment libérée de son internat en asile psychiatrique, Sophia entend bien retrouver sa place dans la famille. Oz, qui a toujours observé attentivement les agissements des uns et des autres, y voit une opportunité de manipuler les deux familles rivales de mafieux, les Falcone pour qui il travaille et les Maroni. Si le personnage est moche, à l'intérieur comme à l'extérieur, sournois et vil, il est loin d'être bancal. Bon, sauf quand il marche. Il fait preuve d'une grande intelligence, à la fois cartésienne et émotionnelle. On le prendrait même presque en pitié par moment. Mais ne vous fiez pas aux apparences, Oz a toujours une idée derrière la tête. Selon Colin Farrell, méconnaissable d'ailleurs dans le rôle principal, cette série est le théâtre d'une histoire très délicate et très sombre. Et on sait bien que Gotham est le parfait endroit pour cela. La rivalité qui s'installe entre Oz et Sophia Falcone s'intensifie au fil des épisodes. Le scénario est bien ficelé, les jeux d'acteurs sont incisifs et le décor donne du relief à l'histoire. Si on croit voir venir des événements plus terribles les uns que les autres au fil de la saison, on n'est jamais au bout de nos surprises et c'est aussi ce qui fait de cette série un petit bijou. Je ne peux donc que vous la recommander. Après ça, je voulais revenir sur une petite série dont on a déjà parlé. Notre chroniqueur Yann, qui n'est pas présent aujourd'hui, nous en avait parlé. Il s'agissait de Cat Size, série française. Alors, personnellement, moi, j'ai adoré. J'ai dévoré la saison en deux soirées. Et ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est comment la série, elle avance et transforme tout ce qu'on a connu dans le manga animé originel pour y revenir d'une manière ou d'une autre et parfois même pour aussi améliorer le scénario pour éviter que du coup on tombe dans justement tout ce qu'on a déjà vu. Il y a des petits rebondissements, des clins d'œil, des choses qui font que voilà, on est nostalgique et en même temps on est content de retrouver cet univers. En plus, c'est bien joué et comme il s'agit d'une série française, je trouve que ça vaut le coup d'être mentionné parce que c'est quand même pas toujours le cas. Voilà. On va continuer avec Anne qui va nous parler de la série Extraordinary, mais on va d'abord écouter la bande originale qui est bien marrante d'ailleurs. Put on this little bikini and dance! Put on this little bikini and dance!
C'était la chanson Bikini, chantée par Caroline Rose, qu'on peut entendre dans la série Extraordinary. Les super-héros ont envahi tous les écrans, du cinéma à la télévision, et même en version subversive, trash, avec la série dont j'avais déjà vanté les mérites dans une précédente émission The Boys. Toutefois, il manquait un registre, c'est le comique en mode sitcom. C'est ce que propose la série britannique Extraordinary, disponible sur Disney+, en 2 saisons de 8 épisodes, de 25 minutes chacun, scénarisée par Eva Moran et réalisée par Charlie Palmer, qui avait déjà réalisé des épisodes de Paul Dark. Ils apportent une originalité. Déjà, ce ne sont pas des super-héros, mais des pouvoirs, singuliers à chacun. Et chaque personne est dotée d'un super-pouvoir dès sa majorité, le jour de ses 18 ans. Mais alors que ce pouvoir se révèle pour tout le monde, notre héroïne, Jen, n'en a toujours pas vu la couleur, alors qu'elle a déjà 25 ans. C'est justement ce qui en fait quelqu'un d'extraordinaire, mais la confronte à la galère d'être sans pouvoir dans un monde peuplé de super-héros. Sa vie est une suite de désastres, tant côté boulot, famille ou relations amoureuses, et elle subit tant bien que mal le don des autres. Ces dons, justement, sont parfois surprenants, parfois classiques, parfois géniaux, comme la super force, la super vitesse, la super vision, l'invisibilité, la capacité de voler ou d'entendre les pensées des animaux, de forcer son interlocuteur à dire la vérité. Mais ils peuvent être handicapants, gênants ou inutiles, comme convoquer des poissons, connaître à l'avance les circonstances de la mort de chacun, ou imprimer des objets en 3D avec ses fesses, ou contrôler les appareils électroniques, mais quand on n'y comprend rien, comme la mère de Jen, c'est ballot. Heureusement, pas de grands enjeux planétaires ici comme chez Marvel, mais les problèmes existentiels d'une jeune femme qui part à la quête d'elle-même et de sa bande d'amis aux émotions complexes, qui tente de se sentir spéciaux dans un univers où tout le monde l'est. La série interroge d'ailleurs intelligemment la figure super-héroïque, l'intérêt d'être spécial et la volonté de trouver sa place dans la société. Cet univers est d'autant plus étonnant qu'il s'inscrit dans un contexte social identique au nôtre. On est dans un univers assez réaliste où les héros véhiculent tous des peurs et les interrogations de notre époque. Et la série traite des thématiques courantes comme l'amitié, l'amour, le travail. La colocataire de Jen, Carrie, elle communique avec les morts. C'est fort utile pour son patron avocat quand il veut prouver à une veuve qu'elle est déshéritée. Mais flippant quand Hitler s'invite à sa table. Et son petit ami est capable de remonter le temps, enfin quand il arrive à maîtriser son don. Et c'est plutôt brillant, on peut voir une symbolique forte dans l'utilisation des pouvoirs. Ainsi parler aux morts comble une difficulté à s'affirmer et remonter le temps sert à fuir la difficulté et ses responsabilités en corrigeant ses erreurs. On dérive constamment vers quelque chose d'inattendu. La série regorge de bonnes idées et va très loin dans les situations absurdes, grotesques. C'est vraiment décalé, déjanté, les personnages sont bien barrés. Si on adhère au délire, on rit énormément aux comiques de situation, aux dialogues qui fusent et à l'humour cocasse. C'est à la fois dynamique et chaleureux, caustique et percutant, plein de fraîcheur. Et tout ça agrémenté d'un charme très british. On va rester dans l'étrange et aussi l'humour, mais avec une série française cette fois-ci grâce à OVNI. Écoutons le générique.
Je vais vous parler d'une série qui aurait pu être une simple fiction sur les petits hommes verts et qui s'avère être un ovni télévisuel au sens propre du terme. Je vais bien sûr parler de OVNI, imaginé par Clémence Dargent et Martin Douer et réalisé par Anthony Cordier. Cette pépite, signée Canal+, nous embarque dans la France des années 70 à la rencontre d'un service administratif un peu spécial. L'histoire suit Didier Mathur, un ingénieur spatial brillant et rationnel, qui se retrouve relégué à la tête du GEPAN, un service gouvernemental dépendant du CNES, chargé d'enquêter sur les phénomènes inexpliqués. Son objectif, démystifier les soucoupes volantes et ramener un peu de sérieux scientifique. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Dès le premier épisode, on est happé par l'ambiance rétro et barrée de la série. Imaginez un mélange improbable entre Mad Men, X-Files et une comédie française teintée d'absurde. Les décors, les costumes, les cadrages, tout transpire les 70s et la BO électropop signée Thylacine finit de nous plonger dans cet univers délicieusement décalé. Côté casting, on retrouve un Melville Poupeau impeccable en scientifique cartésien dépassé par les événements. L'acteur est en état de grâce et démontre encore un peu plus ici l'étendue de son talent qui lui fait désormais embrasser toute la gamme des émotions. À l'image des Noiret, Rochefort, Marielle et Serrault, n'hésitant jamais à toucher le fond pour mieux retomber sur ses pattes. À ses côtés, Géraldine Payas, Quentin Dolmer, Michel Willermoz et Daphné Patakia, qui forment une équipe de doudingues, chacun apportant sa touche d'excentricité et d'humour à la série. Car oui, OVNI est avant tout une comédie, une vraie, avec des dialogues ciselés, des situations absurdes et une galerie de personnages plus loufoques les uns que les autres. Mais sous ces airs de farce, la série pose aussi de vraies questions. Et si l'inexplicable faisait partie du réel? Si ce qu'on cherche à rationaliser cachait quelque chose de plus profond, de plus intime? Si la certitude absolue n'est pas de ce monde, le doute ne doit-il pas impérativement nourrir le progrès technologique? C'est cette ambiguïté, ce mélange de burlesque et de mystère qui rend OVNI si attachante. La série se compose de 2 saisons également réussies. Malgré un succès critique et populaire, il n'y a pas de 3e saison, faute d'audience dans un milieu très concurrentiel. Les arcs narratifs développés dans la 2e saison sont cependant clos. Dans le dernier épisode, par contre, la dernière scène constitue une fin ouverte qui crée une certaine frustration, mais qui n'en est pas moins belle. L'espoir est permis, puisque les créateurs de la série avaient engagé l'écriture de la saison 3 et ils espèrent pouvoir la montrer dans quelques années. OVNI est donc une série qui ose, qui sort des sentiers battus et qui joue avec les codes du fantastique sans jamais se prendre au sérieux. C'est drôle, c'est inventif et c'est une vraie bulle d'originalité dans le paysage audiovisuel français. Je donne maintenant la parole à Julie, mais avant, on va écouter la bande-annonce de La Servante Écarlate.
Quand ils ont mitraillé le Congrès, on s'est pas réveillé. Quand ils ont suspendu la Constitution, on s'est toujours pas réveillé.
Ils ont enlevé ma fille.
Mon nom est Defred. J'en avais un autre avant, mais il est devenu interdit.
Vous servirez les officiers de la foi, ainsi que leurs épouses infécondes. C'est vous qui porterez leurs enfants.
Nous sommes prisonnières.
Si tu veux revoir ta petite fille, il faut que t'arrives à pas péter les plombs.
Je n'ai aucune envie de baisser les bras. Ne me décevez surtout pas. Je m'appelle June.
T'en fais pas, Zaira. Il existe un réseau. La Résistance.
Oui, donc avec moi, on part très loin de la comédie, très, 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 très loin de la comédie, sur 6 saisons, donc, la production ayant commencé, pardon, en 2017 et s'étant arrêtée cette année en 2025. Donc on a donc 6 saisons avec des épisodes un peu longs. Vous partez pour chaque fois à peu près entre 45 minutes et 1h05 d'épisodes. Autour de l'histoire, donc, vous l'avez entendu, de June. June, c'est une jeune femme au départ tout à fait comme les autres, une jeune maman d'une petite fille qui s'appelle Anna, qui a au début de l'aventure dans les 5-6 ans. Et June, en raison de choix politiques faits aux États-Unis, va se trouver perdue dans les tourments de l'histoire. Une histoire très sombre, puisqu'elle se retrouve, en raison de sa fertilité, positionnée comme servante, handmaid en anglais, c'est-à-dire à devoir mettre, on va être cru, son utérus au service d'une autre famille, d'une famille religieuse et d'un nouvel État qui va remplacer les États-Unis. Donc sur ces 6 saisons, on suit June, qui ne se laisse pas faire, qui a décidé de lutter à la fois pour sa liberté, mais aussi pour celle de ses filles et pour celle de toutes les femmes qui l'entourent dans ce nouvel État qui a remplacé les États-Unis. Pour moi, La Servante Écarlate, c'est une série, alors déjà qui est très actuelle, puisqu'actuellement, on a la 6e saison qui est en cours de diffusion. Donc, ça sera la dernière saison. Oui, c'est fini, enfin. On va avoir une conclusion à cette histoire. Mais c'est surtout une série qui frappe par son actualité. Parce que, on l'a entendu dans la bande-annonce, June décrit un peu comment toute l'histoire a commencé. Toute l'histoire a commencé exactement dans la même situation dans laquelle on est à l'heure actuelle, avec des votes qui ne vont pas forcément dans nos sens, avec des lois qui sont là pour oppresser les femmes, avec une montée de l'intégrisme religieux. Donc pour moi, La Servante Écarlate, c'est vraiment, malheureusement, un peu un reflet de ce qui peut se passer dans notre société à l'heure actuelle et de ce qui pourra se passer plus tard. Pour moi, c'est un avertissement qu'il est utile de regarder. Alors, je ne vais pas le cacher, c'est dur à regarder. Même moi, par moments, j'ai décroché. Je me suis dit, c'est pas possible. Au bout de 3 saisons, alors ça s'avale très bien. Hein. C'est très haletant, il y a un rythme, il y a des cliffhangers du suspense à peu près à chaque fin d'épisode. On a envie de savoir ce qui va se passer. En plus, June, c'est une héroïne comme on les aime. C'est-à-dire qu'au moment où elle est là et elle peut se sauver, on se dit, ça y est, c'est fini, elle va se sauver. Eh ben non, elle repart en arrière parce qu'elle s'est sauvée elle, mais elle n'a pas sauvé ses amis, elle n'a pas sauvé sa fille, elle n'a pas sauvé les femmes. Et donc, du coup, elle repart et on se dit, mais c'est pas possible, elle repart et nous, on va repartir avec elle et on va se rebattre de nouveau avec elle. C'est donc très haletant, mais c'est aussi très dur. Là, je suis en train de regarder les toutes premières saisons avant d'arriver à la 6e. Et à chaque épisode, je découvre des choses différentes, une nouvelle façon de voir les choses. Et vraiment, je me demande aussi, c'est aussi une série qui, pour moi, pose la question de savoir jusqu'où vont nos limites dans ce qu'on peut regarder. Parce qu'on regarde quand même 6 saisons d'une femme qui se fait torturer, alors elle, les autres, puisqu'en fait, on s'aperçoit aussi petit à petit que tout n'est pas manichéen, tout n'est pas noir d'un côté, du côté du pouvoir oppresseur, et blanc pur du côté des femmes opprimées. Au contraire, hein, chacun a sa part d'ombre. Les héros et l'héroïne notamment se compromet beaucoup pour pouvoir justifier et avancer son combat. Les oppresseurs aussi, on découvre que eux derrière n'avaient peut-être pas imaginé jusqu'au bout l'histoire dans laquelle ils étaient pris et l'histoire qu'ils voulaient faire avancer. Donc pour moi, c'est une série extrêmement actuelle qui interroge plein de sujets. Après, ayez le cœur bien accroché, faites des pauses. Voilà, allez voir des petits chatons, des petites vidéos de petits chiens sur Internet, ça aide aussi. Mais surtout, et ça c'est un message que je donnerai à toutes les femmes et les jeunes femmes qui regardent, enfin qui écoutent notre émission, regardez cette série, voyez ce qui éventuellement peut nous pendre au nez dans quelques années. Et justement, vous l'avez entendu dans la bande-annonce, ne faites pas la même erreur que June, battez-vous dès maintenant pour qu'on n'en arrive pas là et qu'on puisse ne pas nous-mêmes vivre 6 saisons à essayer de se sortir de cette histoire. Et donc maintenant, je passe...
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Arpoador, eu sei onde encontrar.
Et oui, bienvenue au Brésil. Donc, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Suite à, donc, à l'écoute de ce titre « Ver o Mar », qui est interprété par l'acteur et chanteur Leandro Lima, qui incarne le personnage de Chico dans la série que je vous présente, qui s'appelle « Cochas Mais Linda » ou plus simplement en anglais « Girls from Ipanema ». Qui n'est pas sans vous rappeler une chanson de Bossa Nova très connue. Et j'ai choisi ce titre parce qu'il apparaît dans la saison 1, épisode 3, sur le bateau. Et c'est vraiment une partie que je trouve très sympathique, je ne vous en dis pas plus. On est principalement ici plongé dans les années 60, dans un Rio nostalgique et élégant. C'est une série qui est créée par Heather Roth et Giuliano Cedroni, qui est réalisé par Kaito Ortiz. Et on y suit l'histoire d'une femme qui s'appelle Malou, qui est incarnée par Maria Casadevall. Et c'est une femme qui essaye d'ouvrir, tant bien que mal, un restaurant musical à Rio, après avoir été malheureusement abandonnée et volée par son mari. Donc elle entame une collaboration avec Adelia, qui est jouée par Patti de Jesus, en plus d'entretenir une forte amitié avec Lydia, qui est une chanteuse de bossa nova à 16 heures, qui est incarnée par Fernanda Vasconcelos, et Teresa, qui est une femme au grand caractère et qui est interprétée par Mel Lisboa. Alors, c'est un groupe de femmes éprises de liberté, féministes, qui nous montrent comment surmonter les difficultés et assumer ses rêves, y compris dans les favelas. Donc on a vraiment à la fois le Rio citadin et le Rio effectivement un petit peu plus éloigné. Et ça permet, je trouve en tout cas qu'on redécouvre Rio sous un autre angle. Et comme j'aime beaucoup le jazz et cette série, ça m'a permis véritablement de redécouvrir des titres de bossa nova vraiment classiques. Et donc j'ai redécouvert vraiment avec bonheur. Et même des créations musicales originales réalisées et composées justement pour cette série. Donc les performances musicales sont remarquables, je trouve. Et la série évoque aussi donc, les mouvements féministes contemporains donc, à Rio. Et notamment, alors je ne vous dirai pas quel personnage féminin est touché, mais malheureusement, il y a un féminicide qui est présent dans la série qui est assez dur. Mais aussi, la sororité y est très belle, ainsi qu'une ambiance véritablement... On voit qu'il y a un raffinement esthétique qui a été vraiment très, très remarquable. Et il y a une fin, un suspense. Donc malheureusement, pour l'instant, il n'y a que 2 saisons. Mais il y a des fans qui se mobilisent pour qu'il y ait une troisième saison. Donc on verra bien. Mais en tout cas, c'est une série que je vous recommande vivement. Et je vais vous présenter aussi après. Donc, c'est Utopia qui sera présentée par Clément.
Ah, Utopia, comment ne pas parler de cette pépite ? Utopia est une série télévisée, bien british dans l'âme, créée par Dennis Kelly et diffusée sur Channel 4 entre janvier 2013 et août 2014. Elle comporte seulement, et à mon grand regret, 2 saisons totalisant 12 épisodes. Mais, avant d'aborder les contours de l'intrigue, il va falloir parler de l'atmosphère sonore d'Utopia. Elle joue un rôle essentiel dans l'immersion et l'intensité de la série. La bande-son, composée par Cristobal Tapia de Vierre, est une fusion unique de sons électroniques expérimentaux, de percussions organiques et de distorsions étranges qui accentuent le manège omniprésent. Les morceaux mêlent des rythmes tribaux, des sifflements inquiétants et des synthétiseurs dissonants, créent une tension permanente. Certains passages utilisent des voix trafiquées et des bruits de fond dérangeants, renforçant l'impression d'un monde en décalage avec la réalité. L'absence de musique dans certaines scènes clés laisse place à des silences pesants ou à des bruits ambiants amplifiés, respiration, craquement, son mécanique, ce qui accentue l'angoisse du spectateur encore plus. En contraste, certains thèmes musicaux plus légers, presque enfantins, ajoute une ironie macabre aux moments les plus violents, rendant ces scènes encore plus dérangeantes. L'ensemble donne à Utopia une identité sonore atypique, où la musique et les bruitages ne se contentent pas d'accompagner l'image, mais participent pleinement à la construction de son atmosphère oppressante et hypnotique. Vous l'aurez compris, l'ambiance sonore et la réalisation s'imbriquent méticuleusement. Revenons maintenant à l'intrigue et surtout à l'aspect visuel, qui est vraiment aux petits oignons. L'histoire mêle paranoïa, manipulation génétique, théorie du complot, critique sociétale, et avec un ton très sombre, parfois choquant. L'intrigue tourne autour d'un groupe d'individus qui découvrent une bande dessinée mystérieuse intitulée Utopia, suite du roman graphique culte Dystopia. Elle contiendrait des informations prédisant des épidémies virales et des catastrophes sanitaires mondiales. Et cette découverte va très vite les entraîner dans une conspiration complexe impliquant une organisation secrète. Au centre de tout ça, une fille énigmatique, nommée Jessica Hyde, qui est elle-même recherchée par cette organisation secrète. Elle devient l'allié, ou parfois l'adversaire, du groupe de fans tout en poursuivant sa propre quête de vérité. Tous ces éléments font de la bande dessinée un objet de convoitise pour diverses factions, ajoutant une dimension ésotérique et mystérieuse à l'intrigue. La réalisation d'Utopia est particulièrement remarquable. Dirigée par Mark Munden, elle se distingue par une identité visuelle audacieuse. La série utilise une palette de couleurs vives et saturées, inspirée du procédé Technicolor des années 1950. Cette approche crée un contraste frappant entre l'esthétique éclatante et les thèmes sombres abordés, renforçant le sentiment encore de malaise constant. Les cadrages sont soigneusement composés, jouant sur les perspectives, la symétrie et les symboles, contribuant ainsi à une expérience visuelle unique. En somme, Utopia offre une fusion intrigante entre une narration complexe, centrée sur une bande dessinée énigmatique, et une réalisation visuellement saisissante, faisant d'elle une œuvre singulière dans le paysage télévisuel. Chaque élément, cadrage, musique, silence, est pensé pour maintenir le spectateur dans un état de tension permanente, transformant cette œuvre en une expérience sensorielle intense, à la fois dérangeante et captivante. Utopia reste une référence en matière de narration immersive et d'identité artistique audacieuse. Je passe maintenant la parole à Anne qui va nous parler de Rogue Heroes. Et on va écouter la bande-annonce. I once had this idea. An idea that might move the war in our favor. I am bringing together men of a particular caliber. Then you need only one order. Go, kill, return, go again. Oh, I see. Do you have a name to your outfit? The SAS. What are the chances of survival? 10. And I am mad as fuck.
Après Peaky Blinders, Steven Knight nous livre à nouveau une excellente série avec Rogue Heroes, visible sur Canal+ en 2 saisons. Une série de guerre, d'action historique, inspirée d'une histoire vraie, racontée dans le livre SAS Rogue Warriors de Ben Macintyre, qui retrace l'histoire des forces spéciales britanniques, Special Air Force SAS. La saison 1 commence en Égypte, en 1941. Les Britanniques perdent du terrain face aux troupes allemandes d'Erwin Rommel. L'officier David Sterling est hospitalisé après un exercice d'entraînement qui a mal tourné. Constatant que les unités de commando traditionnelles ne fonctionnent pas, il élabore un plan radical qui va à l'encontre de toutes les règles militaires ordinaires, qui consiste à mettre sur pied une petite unité secrète pour semer le chaos derrière les lignes ennemies, saccager des points stratégiques et récupérer des renseignements. Il recrute ainsi les soldats les plus durs, têtes brûlées, qui n'ont peur de rien. Cet escadron de soldats d'élite aura carte blanche pour réussir. On va alors suivre ces soldats téméraires, bourrins, même voyous, comme l'indique le titre, aux méthodes brutales, contestables, mais hyper efficaces. Comme lorsqu'ils s'installent en plein désert pour faire sauter l'aviation nazie au sol à coups de bombes artisanales. Et on va même les suivre avec d'autant plus de plaisir qu'ils vont assurer leur mission quasi-suicidaire avec entrain, comptant les points chaque fois qu'ils font sauter un avion ennemi, avec à la clé une belle récompense pour celui qui atteindra le plus gros score, une bouteille de whisky écossais de 20 ans d'âge. Leur comportement dingue, leur audace et leur prouesse se révéleront si improbables que le réalisateur a dû atténuer la réalité pour que le spectateur puisse y croire. À chaque début d'épisode, il est mentionné « les événements décrits qui semblent invraisemblables sont pour la plupart vrais », ajoutant un avertissement liminaire nous rappelant de garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'un cours d'histoire. S'ils rendent gloire aux héros, les créateurs de la série n'en glorifient pas pour autant la guerre. Et ils n'oublient pas d'en raconter l'horreur, de montrer les peurs, les doutes, l'impact psychologique sur chacun, qu'il soit acteur ou témoin des actes de guerre ou victime collatérale. Et si on prend autant de plaisir à regarder ces deux saisons, c'est aussi grâce à une réalisation très soignée, stylisée, nerveuse, absolument ébouriffante. Les scènes de guerre, parfois violentes, sont ponctuées et rythmées d'une musique détonnante, euphorisante, à grand renfort de morceaux de hard rock, AC/DC, Judas Priest, Black Sabbath, de New Wave avec The Cure, Killing Joke, et de punk avec The Clash et Les Sales Majestés. Personnellement, j'ai adoré la musique, c'est ce qui m'a fait vraiment adorer cette série. Ainsi, les soldats, qui n'ont peur de rien, de l'action et du rock, tout ça, ça forme un cocktail explosif qui rend cette série palpitante. Rogue Hero fait la part belle à une galerie de personnages truculentes qui permettent même des moments de pure comédie entre les scènes musclées. Les dialogues subtils et ironiques révèlent leur esprit impertinent, laissant place à un humour noir délectable. On se laisse embarquer avec une vraie jubilation. Et là, on va passer à une série, à un concept très particulier, très original. Alors, c'est Julie qui nous présentera The Backrooms après avoir écouté la bande originale.
Alors oui, pour conclure ce rendez-vous série, moi je vous propose plus qu'une série, un concept en fait. C'est un ensemble de 22 courts-métrages, alors qui vont de 1 minute 30 à 45 minutes pour le plus long, qui ont été produits entre 2022 et 2025 pour les plus récents, par un YouTuber, donc du nom de Kane Parsons, c'est son vrai nom. Sur YouTube, vous le trouverez sur la chaîne Kane Pixels. Et donc, il a produit plusieurs séries de courts-métrages. Celui-ci se concentre sur ce qu'on appelle les backrooms. Donc, les backrooms, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la mythologie, c'est un vrai mythe d'Internet qui est né dans les années 2000-2010 à partir d'une simple photo. Donc, la photo, vous imaginez, pour ceux qui, comme moi, ont eu des parents de la génération 70, 80, vous imaginez vous vous retrouvez dans un immeuble de bureau des années 80, entièrement vide, avec une espèce de moquette un peu verdâtre au sol, des murs recouverts d'un papier peint jaunâtre, des gros néons, vous savez, des grosses plaques de néons avec la lumière bien jaune. C'est ça, cette photo. Les backrooms, en fait, ce sont des espaces, en français, on les appelle les espaces liminaux. C'est des espaces qui nous mettent mal à l'aise. Des espaces qu'on n'a pas l'habitude de voir vides, dans lesquels on n'a pas l'habitude de rester très longtemps. Donc les immeubles de bureaux, les halls d'immeubles, les halls d'hôtels, les salles d'attente des médecins. Tous ces espaces où on se dit un peu, on ne devrait pas y être, on ne devrait pas y rester. et imaginez ces espaces qui, en fait, se multiplient à l'infini. Et imaginez qu'un jour, totalement par hasard, vous êtes, comme au départ le premier héros de Kane Pixels, vous êtes un jeune homme, vous êtes avec trois copains en train de filmer votre petit film indé pour votre école de cinéma, et là, tout d'un coup, bam, vous passez à travers le sol et vous vous retrouvez dans les backrooms. Et ça, ça peut vous arriver à n'importe quel moment. C'est ce que vous apprenez avec Kane Pixels. Vous pouvez être dans une voiture, vous pouvez être chez vous, vous pouvez regarder dans votre placard, vous pouvez ouvrir la porte de votre garage, et là, tout d'un coup, vous avez un monde qui s'ouvre à vous, un monde entièrement vide. Ça, c'est ce que vous croyez au départ. C'est-à-dire que vous pensez que ce monde est vide, vous ne comprenez pas comment il fonctionne, les objets changent de place, les murs ne sont pas des murs, tout d'un coup, vous tombez dans le sol et vous vous retrouvez allongé par terre, mais en fait, l'ouverture par laquelle vous êtes passé se retrouve soudainement tout en haut d'un mur. Pas au plafond, tout en haut d'un mur. Mais vous vous retrouvez au sol. Donc comment est-ce que vous repassez? Vous avancez, il fait noir, vous vous éclairez à la lampe de poche, et tout d'un coup, autour de vous, une tapisserie. Vous savez, les tapisseries là, à l'ancienne, là, les trucs qu'on vend dans les châteaux, avec les grands arbres, les scènes de chasse, etc. Et au fond de la pièce, vous avez une maison. Ou alors, vous marchez, et tout d'un coup, vous vous retrouvez dans une rue. C'est la nuit, plein de petites maisons à l'américaine, là, tout aligné, et vous entendez du bruit. Vous rentrez dans une maison, il n'y a personne. Vous visitez toutes les pièces, il n'y a personne. Mais derrière le mur, il y a quelqu'un. Quelqu'un qui vous répond. Quelqu'un qui, lui aussi, est coincé dans les backrooms. Donc c'est tout ça, cet univers de Kane Pixels. Donc, c'est pas lui qui a inventé cet univers-là. L'univers préexistait avant lui, avec une mythologie extrêmement fouillée, qui s'est construite à travers des wikis sur Internet. Avec les backrooms, c'est, je crois, plus de 400 niveaux différemment. Alors, vous avez des descriptions différentes, vous avez des créatures différentes qui habitent dans ces niveaux. Certains niveaux peuvent vous conduire à l'extérieur, d'autres non. Il y a toute une société qui se construit dans cette backroom avec des groupes de survivants qui s'entraident, avec des sociétés d'échange. D'échange avec quoi? Avec l'extérieur, on ne sait pas. Mais voilà, il y a des sociétés d'échange. Et lui, Kane Pixels, en fait, il a développé sa propre vision des backrooms en inventant une société, enfin, un institut de recherche qui s'appelle Async. Et en fait, à part son premier court-métrage, qui est donc de positionnement de ce que sont les backrooms, et du fait que des gens disparaissent, et qu'on s'aperçoit qu'à partir des années 90, il y a une augmentation très très forte. Alors, dans quelle ville, dans quel état, on ne sait pas trop, mais il y a une augmentation très très forte des disparitions à partir des années 90. Et ce que Kane Pixels va nous raconter, c'est l'histoire de cet institut de recherche, Async. Pourquoi les backrooms ont été découvertes, voilà. Pourquoi est-ce qu'on a voulu les exploiter? Et quelles en sont les conséquences dans le monde actuel? Donc c'est très fouillé. Alors, il faut se préparer. C'est donc, comme j'ai dit, des courts-métrages. Donc le mieux que vous ayez à faire, c'est lancer la playlist. Vous dire, vous avez une soirée. Bon, allez, on va dire maximum 2 heures, 3 heures. 2h30, 3 heures peut-être avec les pubs. Parce que c'est un peu le principe de YouTube, c'est que si vous ne payez pas l'abonnement, vous avez les pubs. Et donc, franchement, il y a des moments où elles tombent, à des moments où on n'a pas envie qu'elles tombent là, mais c'est pas grave. On fait avec, et vous vous bloquez ce temps-là, et vous explorez l'histoire d'Async, en fait. Et vous voyez ce qui s'est passé, et vous voyez toutes les luttes de pouvoir qu'il y a eu à l'intérieur. Et vous voyez l'exploitation qui a été faite de ces backrooms. Et franchement, vous vous mettez dedans, vous y restez. Il y a des moments où ça va vous dérouter. Alors déjà, c'est en VO, en anglais. Il y a quelques vidéos qui sont sous-titrées en anglais, mais pas toutes. Voilà, ça dépend vraiment des vidéos. Les plus célèbres sont sous-titrées en anglais, les autres non. Il y a beaucoup de vidéos où vous n'avez que de l'image et du bruit. Donc ça, c'est pareil, ça a donné lieu à tout un courant de musique qui s'appelle les musiques liminales. C'est une musique un peu bizarre, vous savez ce qu'on entend dans les films d'horreur, un peu les trucs un peu... petite musique de boîte à musique qui tout d'un coup dévie, dérange, des bruits bizarres, des bruits de chauves-souris, des bruits de chats, des bruits de chiens. Et donc par moment vous n'avez aucun dialogue, et par moment vous suivez trois des chercheurs de Async qui explorent les backrooms, qui voient ce qui s'y passe, qui se confrontent aux créatures qui sont dans les backrooms et qui cherchent un moyen au final de faire fermer ces backrooms, puisque bon, on le sait bien, l'être humain les a exploités de mauvaise manière et du coup ça se retourne contre nous. Faut vraiment essayer, faut s'y plonger. Mais je pense que si vous faites l'essai, vous n'avez qu'une envie, c'est ensuite d'aller explorer ce qu'a fait Kane Pixel derrière. Voilà.
Une véritable expérience.
Merci beaucoup, Jenny. Il y a eu beaucoup d'étranges dans les séries qu'on a présentées ce soir. Donc, nous avons parlé de Anaon, The Penguin de Cat's Eye, Extraordinary, OVNI, La Servante Écarlate, Coisais Mais Lindas, Utopia, Rogue et Rose, et on a terminé avec The Backrooms. Tout à l'heure, à 20h, dans le cloître de la bibliothèque Saint-Corneille, le Cinéclep propose la projection du film L'homme qui voulut être roi de John Huston, premier des trois films de leur cycle hommage à Sean Connery. Samedi 3 mai à 17h, les Petits Socratiques vous invitent à parler d'amour. Demain matin à 11h, venez partager vos découvertes ou découvrir nos nouveautés et coups de cœur à notre rendez-vous culture à la Bibliothèque Saint-Corneille. Et nous vous retrouvons sur Graphite le vendredi 16 mai à 18h pour notre prochaine émission. Très bon week-end !